Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, merci d'être venu à cette conférence sur les apports de la culture arabo ou musulmane sur le monde européen, organisée dans le cadre d'un partenariat entre le Toit du Monde et l'Espace Manès France. Alors, cette conférence, elle s'inscrit dans un projet mené par le Toit du Monde au cours de cette année 2012, le projet arabesque, entre guillemets, notre héritage arabe, où différentes manifestations étaient organisées et qui nous ont permis d'aborder cette question des échanges culturels et des apports réciproques entre, grosso modo, ce qu'on peut désigner par les expressions monde arabo-musulman, monde occidental, même si c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors, parmi ces manifestations, on avait abordé la question de la danse orientale et de ses influences historiques. Il y a actuellement encore une exposition à l'Espace Manès France sur la calligraphie arabe. Elle sera présente jusqu'au 6 janvier avec des animations qui sont ouvertes à tout public, donc les samedis après-midi. On a également pu profiter d'une exposition photo sur l'Algérie, un pays qui a des liens très complexes avec la France, et également une soirée de danse et musique orientale avec la compagnie Ayoun Saltana. Donc ce projet arabesque, c'est la clôture ce soir. On termine par cette conférence table ronde. Clôture qui fait sens dans la mesure où ce projet arabesque, il était animé par cette volonté justement de présenter ces influences réciproques entre le monde arabo-musulman et le monde occidental. C'était à travers ça l'idée de montrer l'enrichissement réciproque de nos identités qui se produit à travers ces échanges sur des temps longs, comme on pourra le voir dans un premier temps avec Karine tout à l'heure. Donc, vous pourrez constater qu'on porte un regard positif, évidemment, sur ces échanges. On les présente loin des clichés, des idées réductrices, loin d'une théorie du choc des civilisations, bien évidemment. Et on remercie fortement les trois intervenants qui ont pris de leur temps pour présenter ce soir et pour préparer leurs interventions. Donc, les interventions, Karim Enadji, qui est professeur d'histoire-géographie. Il a travaillé dans le domaine comme conseiller culturel français dans différents pays arabes. Abderrazak Aloumi, ensuite, qui est professeur de lettres et qui est un ancien vice-président du Toit du Monde. Donc, on a des attaches affectives avec Abderrazak, on ne va pas rentrer dans les détails. Et pour terminer, nous aurons l'intervention de Nasser Karkori, professeur en sciences économiques et sociales. Donc leurs interventions, on a prévu une intervention d'une dizaine de minutes pour chacun, et après l'idée c'est d'avoir des échanges avec la salle. Donc voilà, je passe la parole à Karim.
Merci Nicolas, et bonsoir évidemment à ceux qui sont là. Bien, donc c'est moi qui fais la première partie, un petit peu de cadrage historique et géographique, et je voudrais juste un petit peu enfoncer des portes ouvertes, en fait. C'est un peu l'objectif de mon intervention de 10 minutes. C'est rappeler des choses qui sont souvent méconnues, parfois même pas connues du tout, et souvent les journalistes font quelques erreurs à ce sujet, et c'est souvent dommage. Donc on va essayer de rectifier un certain nombre de choses qui concernent ça. Je dis tout ça d'autant plus tranquillement que je vous rappelle que dans 14 jours, le président Hollande va se rendre en Algérie. C'est une visite qui est préparée activement. Je vérifie encore ça sur Internet tout à l'heure de la part de la presse algérienne. Donc c'est quelque chose qui préoccupe tout le monde. Et donc ça montre bien les liens très étroits que nous avons, nous les Européens, nous les Français en particulier, avec le monde arabe en général et le Maghreb en particulier. Donc je vais me présenter. D'abord, je m'appelle Karim Eladji et je vis cette chose-là, cette question d'identité culturelle commune assez étroitement, puisque ma mère est française, mon père est tunisien, mon épouse est polonaise, et j'ai passé une partie de ma vie au Moyen-Orient. Donc, je connais assez bien cette problématique des liens entre l'Europe et le monde arabe, et le Maghreb en particulier, bien sûr. En matière de grandes définitions, et donc je vais commencer par enfoncer des portes ouvertes, je voudrais juste rappeler la chose suivante. Le monde arabo-musulman, il est peu arabe et beaucoup musulman. C'est environ 1,3 milliard de personnes. C'est 63-64 pays à l'organisation de la conférence islamique. Et là-dessus, c'est seulement 300 millions d'Arabes. D'accord ? Donc c'est vraiment une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que si l'islam est né dans le monde arabe en Arabie, au jour d'aujourd'hui, l'islam est essentiellement asiatique. Il est aussi évidemment nord-américain, sud-américain, européen, et environ 15 millions de musulmans en Europe, soit d'origine immigrée, soit des musulmans locaux, je pense aux bosniaques par exemple, aux albanais. Mais ne pas oublier ça, c'est que le poids du monde arabe dans la sphère arabo-musulmane est relativement faible, 300 millions sur 1,3 milliard. C'est faible, c'est 22 pays arabes, 66 pays musulmans, bien, dont des pays musulmans très lourds, comme l'Indonésie ou l'Inde par exemple. Ça, c'est le premier point que je voulais rappeler. Deuxième point concernant le monde arabe. Tout le monde n'est pas musulman. Ne pas oublier ça, sur les 300 millions d'Arabes, il y a environ 10% d'Arabes qui sont chrétiens. Alors, c'est vrai que cette minorité a tendance à baisser, mais elle pèse quand même d'un poids non négligeable. En Égypte, par exemple, ces derniers mois, on a pu le vérifier, encore avant-hier soir, par exemple, où les Coptes ont participé à un certain nombre de manifestations. Donc, c'est pas à négliger. Il y a un film qui est sorti il y a quelques mois qui s'appelle La Vierge, les Coptes et moi. Je vous incite fortement à aller voir, qui vous permet de prendre conscience que c'est que le christianisme arabe, c'est très intéressant à observer, à étudier. Et en plus, le film est drôle, donc ça permet de prendre conscience d'un certain nombre de choses qu'on ignore très souvent en France, et que même d'ailleurs les Arabes du Maghreb, par exemple, ignorent. Parfois, vous surprenez un certain nombre d'Arabes maghrébins, tunisiens, marocains, en leur rappelant qu'il y a des Arabes chrétiens. Il y avait évidemment des Arabes juifs. Pour des raisons historiques et politiques qu'on connaît, vous et moi, ces Arabes juifs ont eu tendance depuis une cinquantaine d'années à rejoindre soit Israël, soit d'autres États. D'accord ? Donc il reste très très peu d'Arabes juifs, par exemple, au Liban, en Syrie. C'est très très résiduel et minoritaire. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays. Vous avez une communauté juive très importante en Iran, il ne faut pas l'oublier, environ 13 000 personnes. Donc voilà, vous avez des minorités juives encore dans le monde arabo-musulman. Ne pas croire que c'est parfaitement imperméable et compartimenté, comme parfois on a tendance à le présenter en Occident. C'est plus compliqué, plus subtil que ça. Les relations qui sont compliquées entre les Arabes et Israël depuis une soixantaine d'années sont parfois plus subtiles avec des pays comme l'Iran, qui a priori pourrait apparaître comme plus virulent que la moyenne. C'est plus compliqué que ça. Voilà pour ce que je veux dire sur le monde musulman et sur le monde arabe. Maintenant, je vais venir à notre pays, la France. La France est très très sensible à cette question, à ces questions arabo-européenne et ou israélo-arabe. Pourquoi ? Parce que c'est le pays européen qui compte la plus importante communauté musulmane, environ 5 millions de personnes, 4,5 millions à 5 millions, et la plus importante communauté juive, environ 600 000 personnes. J'ai bien dit environ à chaque fois, parce que je vous rappelle qu'il n'y a pas de statistiques ethniques ou religieuses dans notre pays. Et ça me paraît très bien comme ça. Mais il y a des estimations sociologiques. Donc on est particulièrement sensible à ça. Derrière nous, il y a la Grande-Bretagne, il y a l'Allemagne aussi. Mais c'est vrai que chez nous, ça, tout de suite, ça a des conséquences plus importantes. Ça, parfois, dès qu'il y a une tension au Proche-Orient, pour l'avoir vécu en tant que conseiller directeur de Créteil pour les questions internationales, j'ai dû parfois intervenir dans des choses très, très tendues entre gamins d'origine maghrébine et gamins de confession juive. D'accord ? C'était parfois tendu. Bien. Voilà sur ces trois premiers points que je voulais évoquer pour commencer. Maintenant, je voudrais partir sur ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire le Maghreb, d'accord, parce que c'est là l'espace arabo-musulman avec lequel on a le plus de liens. J'ai toujours été frappé, en fait, lorsqu'on réfléchit à la question maghrébine, par, si vous prenez la chose sur, non pas sur 20 ou 30 ans, ni sur 132 ans, mais sur 2500 ans, les liens entre l'Europe du Sud, l'Afrique du Nord et l'Orient sont multiples, variés, et il y a eu des moments de balancier dans un sens ou dans l'autre à répétition. C'est assez étonnant. Mais si vous partez du principe qu'il y a 2500 ans, il y avait un substrat berbère sur lequel sont venus se greffer des colonies juives, des colonies, je suis en train de chercher, phéniciennes, pardon, et grecques. Ensuite, vous avez Carthage qui s'est développée, d'accord ? Carthage a bâti un empire qui a été jusqu'à contrôler le sud de l'Espagne. Donc, l'Afrique du Nord contrôlait une partie du sud de l'Europe. Puis ensuite, vous savez comme moi qu'il y a eu les guerres puniques et que Rome a rasé Carthage et s'est mis à contrôler et à romaniser l'Afrique du Nord. Donc vous avez des échanges permanents entre le sud de l'Europe et le nord de l'Afrique. Je poursuis. Une fois que l'Afrique du Nord est romanisée et christianisée, c'est-à-dire 2e, 3e, 4e siècle après Jésus-Christ, vous allez avoir l'arrivée des Vandales. Donc en clair, les Vandales, les Visigoths qui viennent d'Europe centrale puis en Europe de l'Ouest et qui passent en Espagne, qui passent ensuite en Afrique du Nord. Donc les Vandales, considérés comme des invasions barbares, je mets des barbares entre guillemets, hein, c'est, évidemment c'est pas péjoratif dans la bouche, hein. L'Afrique du Nord est sous contrôle Vandale, d'accord, ou sous contrôle ensuite Visigoth. Bien. Problème, donc, cette fois, entre ces populations qui sont ariennes, au sens de arianisme, d'accord, je parle d'une religion chrétienne, et ces populations locales qui sont, elles, catholiques. Bien. Ça reste, donc, on est au 3e, 4e siècle. Vous savez comme moi que deux siècles après, d'accord, 7e siècle, les premiers Arabes musulmans vont arriver et s'installer en Afrique du Nord, progressivement. 7e, 8e, 9e siècle, progressivement, ils vont arabiser et islamiser l'essentiel de l'Afrique du Nord. L'islamisation va être quasiment complète, l'arabisation non, puisqu'on sait très bien, vous comme moi, qu'encore aujourd'hui, il y a des minorités berbères très importantes, notamment au Maroc et en Algérie, dans les endroits où essentiellement il y avait des montagnes. Je pense au Djebel Nefoussa en Libye, je pense au Rif au Maroc, je pense au Kabylie en Algérie. Là, d'accord, il y a eu des minorités berbères qui ont perduré jusqu'à aujourd'hui. Bien. On sait, vous comme moi, qu'à partir du 8e siècle, ces arabo-berbères vont franchir la Méditerranée dans l'autre sens et aller en Espagne, et même, paraît-il, aller jusqu'à Poitiers. D'accord, etc., etc. Ce que je veux juste montrer par là, c'est qu'il y a ce mouvement pendulaire est perpétuel depuis au moins 2500 ans entre les deux rives de la Méditerranée. La reconquista espagnole, à partir du 12e, 13e siècle, va faire que les Arabes vont reculer, d'accord, les populations hispano-arabes vont reculer et repartir vers le Maghreb, d'accord, lentement mais sûrement sur deux ou trois siècles. Et ça va se terminer en 1492. C'est l'époque où il y a aussi des croisades, évidemment, en Orient. On sait très bien, beaucoup moins, qu'à partir du 18e et du 19e siècle, il y a ce qu'on appelle la colonisation qui fait que des populations européennes vont arriver en Afrique du Nord. D'accord ? Donc, vous voyez, si on se met sur 20 siècles, d'accord, on voit que c'est permanent. C'est des mouvements pendulaires, je vous en ai cité 5 ou 6 sur 20 siècles. D'accord ? Et si je me permets de parler de ça, et il me reste encore 2-3 minutes, c'est parce qu'on sait très bien, beaucoup moins, qu'il y a un discours politique qui se développe depuis un certain nombre d'années, et ce n'est pas récent. Le général de Gaulle lui-même avait parlé une fois, il avait dit « je ne veux pas que Colomber les deux églises deviennent Colomber les deux mosquées ». Ça a été il y a 40 ou 45 ans. C'était, il ne faut pas l'interpréter avec les critères d'aujourd'hui, d'accord, c'était pas, on ne va pas dire que c'était un discours raciste ou quoi que ce soit. D'abord, c'était d'ordre privé, premièrement, ça a été rapporté par des biographes, ça n'a pas été tenu publiquement. Mais le fait est que ça tracassait déjà certains Français il y a 45 ans, donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil des relations entre le Maghreb et l'Europe du Sud, d'accord, ça perdure. Et on sait très bien, vous comme moi, que depuis les années 50, il y a une vague d'immigrés nord-africains pour des raisons économiques. Ça, je pense à mon père, par exemple. C'est-à-dire qu'il avait épousé une Française, mais qui est aussi venu en France pour trouver du travail, qui est arrivé en 60, 70, etc., en France. Donc, c'est vraiment un phénomène pendulaire permanent. Ça n'a rien d'extraordinaire. Alors, bien sûr, si on prend ça sur 10 ou 20 ans, je comprends que des gens qui n'aient pas le recul historique disent « Ah, mais oui, la France change, ceci. » On verra qu'en fait, elle change depuis très longtemps. Il n'y a rien d'original sous le soleil. Que ce soit le lexique que va nous évoquer Abdelazak ou d'autres aspects, je pense à la cuisine par exemple, ça change depuis toujours. C'est ça que je voudrais essayer de montrer. C'est vraiment quelque chose de tout à fait normal. Et la France a énormément changé. On sait, vous comme moi, qu'elle a été païenne, elle a été chrétienne, elle est laïque depuis 1905, elle a une identité chrétienne qui est forte, d'accord, bien sûr. Même si l'État, lui, est laïque aujourd'hui, il n'empêche qu'il y a un passé judéo-chrétien qui est évident. Contre la France, on voit des églises, on ne voit pas des mosquées ou des synagogues ou des temples bouddhistes. Ça n'empêche pas aux autres cultes de se développer. Depuis 1905, je pense notamment aux protestants, même depuis Louis XIV. Le fait que Louis XIV ait supprimé, d'accord, la possibilité de pratiquer le culte protestant en France n'a pas empêché une minorité de protestants de rester et de perdurer, puisqu'il y a 1 600 000 protestants aujourd'hui, dont ma mère. D'accord ? Donc, juste montrer qu'il y a, je n'aime pas beaucoup ce terme d'identité, que je trouve très fixiste et assez inquiétant sur le plan historique sociologique. Je préfère de loin cette notion d'échange et de réciprocité qui va d'un continent à l'autre continent, d'une culture à l'autre culture. Et c'est perpétuel et c'est récurrent. Regardez par exemple, et je vais conclure là-dessus, en matière de chansons par exemple, il y a 20 ans, si vous vouliez écouter de la musique maghrébine, il fallait aller au rayon World Music ou Ethnic Music à la FNAC et vous aviez du raï. Le raï s'est popularisé et aujourd'hui, on trouve des chanteurs d'origine maghrébine, bon ou mauvais, je pense à Faudel, voilà, j'ai bien dit bon ou mauvais, d'accord, qui sont dans le rayon variété française. Vous avez Joe Dassin et Faudel. Ça me fait de la peine pour Joe Dassin, mais c'est un fait. D'accord ? Donc, ce que je ne veux pas, c'est que l'interpénétration des cultures est réelle. Il y en a certains qui la craignent. je peux le comprendre, mais je pense que sur le long terme, c'est un fait qu'on peut tout à fait expliquer, qui n'a rien d'original. C'est historique, c'est géographique, c'est démographique, et voilà. Je vais céder maintenant la parole, parce que je parle trop longtemps, à mon camarade.
Merci beaucoup, Karim. Après donc, cette mise au point importante et nécessaire des questions, des distinguos à établir entre arabes et musulmans, et je vais développer un petit peu autour de cette question, mais en prenant en considération l'aspect linguistique. Mais je m'attardais un petit peu quand même sur cette distinction, cette équation. Donc, on doit retenir tous, tout arabe n'est pas musulman et tout musulman n'est pas arabe. Cette langue arabe dont il a été question, elle est l'apanage non seulement des musulmans, mais aussi des juifs et des chrétiens. Et je prends un seul terme, c'est le mot Allah. Allah, ce n'est pas le dieu exclusif des musulmans, mais c'est le mot qui désigne Dieu en arabe. Dans la presse, on apprend, on parle des fous d'Allah, de ceci, de cela. Vous entendez un juif tunisien, un marocain ou algérien, pour reprendre cette sphère géopolitique proche de nous, on dit Wallah, on dit Assalam, etc., etc. C'est les mêmes mots qui sont partagés. Quand on se met sur une chaîne, et Karim en a parlé des Coptes, quand on se met sur une chaîne copte et on écoute le prêche du dernier patriarche d'Alexandrie, hein, il a été intronisé il y a 15 jours en remplacement de Chenouda III. Le prêche, bah, c'est les mêmes valeurs que, j'allais dire, le prêche à la mosquée, etc. Mais moi, mon propos n'est pas là. C'est de dire que ces échanges qui ont été perpétuels, il y a un va-et-vient dans les deux sens. J'aurais pu intituler mon intervention « Comment le français influence les langues arabes ?» La langue est un remarquable conservatoire de rencontres. C'est un musée vivant. Aujourd'hui, on a tendance à minimiser. Quand on ouvre un dictionnaire, on se rend compte tous qu'il y a des mots, on ne peut pas les nier. On sait tous que le mot « alcool », le mot « algèbre », le mot « logarithme », le mot « chiffre » sont d'origine arabe. Mais on est loin de se douter d'autres mots qui sont passés de manière très discrète. Exemple, si je vous dis le mot « carafe », passe-moi la carafe de vin, etc. etc. Donc ce sont des mots, des tournures, on pourra les passer tout à l'heure dans le cadre de la discussion si vous le souhaitez. Depuis quelques années, il y a eu cette tentative de déni ou d'amnésie concernant cet âge d'or. Et on a l'âge d'or de la civilisation arabo-musulmane, et je mets un trait d'union entre les deux, sachant que ces auteurs, qui étaient de langue arabe, qui n'étaient pas nécessairement arabes ou musulmans. Je prends un exemple, Maïmonide, qui est l'un des plus grands philosophes médiévaux, qui est la référence au niveau des études talmudiques pour les juifs. Quand on l'étudie dans la littérature arabe, on l'appelle Ibn Maïmoun. Alors, on peut se raccrocher pour savoir qu'il était Maïmonide. Il avait un nom comme les autres, et il écrivait en arabe. Il faut savoir aussi que la grammaire de l'hébreu a été calquée sur celle de l'arabe. Et donc, c'est cette langue-là qui va permettre aux langues occidentales d'emprunter un certain nombre de choses. Et je vais prendre la partie médiévale, quelques mots, quelques exemples, et dater quelques-uns de ces emprunts. Au Moyen-Âge, des mots qui sont rentrés en français, en ancien français ou en ancien occitan, soit directement, soit via l'espagnol ou l'italien. Je vais prendre un exemple, le mot « méchine », donc en ancien français, c'est « M-E-S-C-H-I-N-E », et qui désignait la servante et après la jeune fille. Ça vient du mot « mesquine » en arabe, qui veut dire « humble » ou « pauvre ». Ce mot disparaît et il va être réintroduit en français au XVIIe siècle, à travers l'italien, c'est le mot qui va donner mesquin en français et qui veut dire avare. Et on voit que comment la vie de ces mots permet aussi un transfert, un changement. Et à travers la langue, du 8e siècle jusqu'aux Lumières, des auteurs ont été lus, traduits, amplifiés. Et qu'il faut se rappeler aussi que ces auteurs de cet âge d'or n'étaient pas simplement des facteurs, des passeurs d'idées, c'était pas simplement des perpétuateurs, parce qu'on a tendance à dire que la culture occidentale, elle vient de la culture gréco-romaine, et que les Arabes n'étaient qu'un petit élément. Non, il y a des choses qui étaient plus importantes, et on a tendance à l'oublier. Ça, c'est un point qu'on pourrait alimenter tout à l'heure, qui pourrait alimenter notre débat. Comme je suis resté dans les emprunts à la langue arabe, il y a d'autres emprunts plus proches de nous. C'est ce qui s'est passé au XIXe siècle. Ce sont les emprunts liés à la colonisation. Ce sont les mots argotiques apportés par les militaires et qui, aujourd'hui, certains ont changé de sens, comme par exemple le mot souk, smalar, amdam, etc., etc. Troisième étape de ces apports linguistiques, ce sont les années 60. Karim a parlé tout à l'heure de ces chanteurs, de ces rapports avec le monde maghrébin. Ben, c'est au moment où la cuisine maghrébine est popularisée en France, on va trouver des mots qui vont correspondre au plat. Mon couscous, tagine, on a l'impression que ça fait partie de notre quotidien. Tu en parleras plus longuement tout à l'heure. Enfin, la dernière vague, c'est des vagues liées à l'immigration. Les mots comme Fissa, Walou, Inch'Allah, Mektoub, Pabezef, oui, mais je prononce comme à la française, un chouïa. Il y a aussi des mots qui sont entrés à travers l'argot, comme la baraka, un chou, flèche commune, etc., etc. Donc, quand on y réfléchit, j'allais dire, de manière froide, de manière distanciée, en laissant de côté cette idée d'identité, et on revient à cette idée que les langues se nourrissent les unes les autres. Il suffit de se pencher sur le petit Robert, le littré et autres. Ça, c'est un aspect, j'allais dire, visible que l'on peut voir tous les jours de ces apports de la vie. Pour terminer, je dirais quelque chose par rapport à ces apports, mais les apports sont vastes, énormes, pendant ces siècles et ces siècles, c'est l'apport au niveau des sciences. Alors, on parle toujours du chiffre. Alors, c'est le mot « sifr » en arabe, qui veut dire « rien ». Qui a deux étymons. Donc le mot sifr qui va donner le mot chiffre et l'autre qui va donner le mot zéro. Alors il y en a un qui est rentré directement et l'autre qui est rentré par l'italien. Et dernier point, j'ai arrêté là parce que moi aussi j'ai tendance à être bavard. Toujours pour les mathématiques, soit x au carré, etc. Le mot x que l'on a tendance à utiliser, tous nos profs de maths nous ont martyrisés, surtout nous les littéraires, avec ces questions-là. Le mot x vient du xai en espagnol, qui est une déformation de shay en arabe, qui veut dire chose. Et on peut continuer. Alors, d'autres éléments comme cela sur la médecine, la philosophie, etc. Voilà, que des pistes à explorer pour notre échange tout à l'heure. Je vous remercie.
Alors, je vous donnerai quelques exemples, moi aussi, de ces apports. Chacun d'entre nous a essayé de traiter cet apport d'un angle particulier. Je suis content de voir qu'on a pratiquement les mêmes idées pour l'instant. On va en débattre après, si vous voulez. Je tiens quand même si ça a été dit, à préciser que l'adjectif arabe que j'utiliserai, ça veut dire les textes qui ont été écrits en arabe par des Arabes, mais aussi par des Berbères, par des Juifs, par des Perses, par des Indiens. C'est pas seulement arabe. C'est important de le préciser, même si on vous a dit au début c'est une minorité dans les l'art arabo-musulman. Je vais vous donner quelques exemples concrets de cet apport. Par contre, il faut plus d'une heure, je suppose, pour parler des apports en musique, en architecture, en philosophie. J'ai choisi deux ou trois points. J'ai choisi la médecine, qui est un cas un petit peu intéressant. Surtout, j'avais vu une émission il y a deux ans sur la 5, qu'on trouve encore sur Internet, qui parle des apports de la médecine arabe qui ont été très très importants, surtout en ophtalmologie et en pharmacologie. Alors, les médecins arabes savaient déjà opérer de la cataracte et ils avaient pratiquement 14 façons de l'opérer. On entend aussi un nom chez nous, surtout dans la littérature arabe et puis en médecine, que vous connaissez peut-être, le médecin Razi, parce que tout le monde connaît Avicenne, Ibn Sina en arabe, mais Razi n'est pas très très connu alors qu'il a fait beaucoup de choses. Il s'intéressait aux infections des enfants, la rougeole, rubéole, etc. Mais il avait compris que la psychologie avait une importance pour guérir les malades. Et c'était un des premiers médecins à Bagdad qui faisait venir des musiciens dans les hôpitaux pour faire guérir quelques malades. Bien sûr, ça ne guérissait pas toutes les maladies. Il y avait aussi les hôpitaux, pardon, étaient gratuits pour déjà à l'époque de Harun Rachid, donc on est au 9e siècle. Quand il a essayé de construire le premier hôpital, il a demandé aux médecins où il pouvait le construire, dans un endroit où l'hygiène, où c'est propre. Razi lui a proposé, donc ce médecin, de mettre des morceaux de viande un petit peu partout dans la ville, à Bagdad, et de voir là où il y a le moins de mouches. Donc déjà, il avait cette notion de bactéries, c'est une anecdote, mais c'est quand même intéressant. L'hôpital gratuit, c'est pareil, c'était pas une invention arabe, mais ça existait déjà. Au niveau des sciences, mon collègue vient de vous en parler. Au niveau des mathématiques, on parle de chiffres, on parle de zéro. Mais les Arabes ont créé d'autres disciplines en mathématiques, comme l'algèbre et la trigonométrie. Alors, le mot algorithme qu'on utilise aujourd'hui, surtout en informatique, vient du grand mathématicien Al-Khawarizmi, qui n'est pas forcément un arabe, mais qui écrivait en arabe. Hein. C'était un perse. Il a écrit un livre qui s'appelle Kitab al-Jabr, livre d'algèbre, déjà à cette époque-là. Et les chiffres du système décimal furent introduits vers l'an 1000 à peu près en Europe, mais ça a été presque interdit. On n'a pas utilisé les chiffres arabes tout de suite. Je l'ai noté ici, jusqu'en l'an 1202, où c'est un Italien, Leonardo Fibonacci, qui a introduit les chiffres arabes en Italie. Mais le clergé se méfiait, on est aussi à l'époque des croisades, se méfiait des chiffres arabes et il interdisait leur utilisation, pardon. En disant que c'était des chiffres du diable et que c'était falsifiable parce que le zéro en arabe, on peut écrire un 6, un 9 avec le zéro, un 7 on peut le transformer en 1, on peut le transformer en 7, c'était falsifiable par rapport aux chiffres romains. Et ce n'est qu'au 15e siècle où les chiffres arabes ont pris la place et puis la science s'est développée. Il a fallu attendre le 15e siècle pour que les chiffres romains cèdent la place aux chiffres arabes. En ce qui concerne la cuisine, donc tout le monde connaît le couscous qui a plus de 3000 ans, qui vient du Maghreb, mais il y a aussi le melon et le pastèque, ce sont les Arabes qui l'ont introduit au XVIIe siècle en Europe. Il y a un personnage très important qui s'appelle Zeryeb, pour simplifier, on est au 8e siècle. Il est à l'origine de l'ordre de l'arrivée des plats, parce qu'avant on mangeait n'importe comment. C'est un des premiers qui a montré aux princes comment on pouvait manger les plats les uns après les autres. Il a aussi introduit l'idée de boire dans du cristal, que ça soit du vin ou de l'eau, parce qu'avant on buvait, même dans les châteaux en Europe, on buvait dans des coupes en argent ou en or, mais pas en cristal. C'est le premier qui a introduit cette idée-là. Il a introduit l'idée du salé sucré en Andalousie. Et avec l'examen de l'alimentation dans les livres, ça nous permet de voir l'influence de la cuisine princière arabe par rapport à la cuisine princière européenne. J'ai quelques exemples ici par rapport à l'Italie, on est au XIIIe siècle. Il y a l'exemple de Romania, qui veut dire c'est un plat de viande à la grenade. Roman en arabe, c'est la grenade. Il y a Limonia, qu'on trouve déjà à l'époque en Italie au XIIIe siècle. Limone en arabe, c'est le citron, c'est un plat avec du citron. Somakia, c'est un plat avec de sumac, etc., etc. Ces plats sont passés de l'Italie à Paris à l'époque des Valois à peu près. En tout cas, on ne peut pas vous citer tous les exemples, que ce soit en cuisine, en musique, en architecture ou dans d'autres domaines. J'ai oublié juste un physicien très intéressant dont on ne parle pas beaucoup, qui s'appelle Ibn al-Haytham, qui a vécu vers l'an 1000. Et c'était un des premiers à écrire un traité sur l'optique. Il a travaillé sur l'optique, il a travaillé sur la réflexion et la réfraction de la lumière dans l'eau, le changement de trajectoire. On est en l'an 1000 et en fait, il a travaillé là-dessus parce qu'il était en prison au Caire. Le roi l'avait emprisonné parce qu'il n'a pas réussi à construire un barrage sur le Nil parce qu'il voyait que c'était pas possible. Et pendant son séjour dans cette prison, il a écrit, donc il a travaillé sur l'optique. Et ça n'a été repris que pratiquement pas, on va dire au 16e siècle, ça a été oublié jusqu'au 16e siècle, ça a été repris par Descartes. Voilà. Bon, je m'arrête là, je préfère laisser un débat entre vous.
Ah, merci. Alors, est-ce qu'il y a une première réaction dans la salle, une première question? Comme toujours, ça se bouscule au portillon. Alors, je vais poser la première.
Il y a une question.
Ah, bon, alors je poserai une autre question.
Est-ce qu'on peut rebondir sur l'optique?
Oui. Je ne suis pas un spécialiste d'optique, mais...
Oui, mais bon, la question qu'on se pose tout naturellement au sujet de l'optique, vous avez parlé de ce physicien dont je n'ai pas noté le nom, excusez-moi, et puis donc de Descartes. Alors, les travaux de Descartes, nous les connaissons, mais l'influence de ce physicien, nous ne la connaissons pas. Je veux dire, est-ce que Descartes a utilisé effectivement les travaux de ce physicien. Et bon, alors à ce moment-là, on en a témoignage quelque part, probablement.
Eh bien, normalement, moi, d'après ce que j'ai vu, il y avait au départ, c'était en Andalousie qu'on a essayé d'aller plus loin. Lui, il est parti de l'idée qu'il a travaillé sur l'héritage grec. Son idée, c'était pourquoi on voit les choses. Et je ne suis pas spécialiste de la philosophie non plus, je suis professeur d'économie. Mais il me semble que pour les Grecs, ça venait de l'œil. Et lui, il disait, mais quand il fait noir, on ne voit pas les choses. Donc, il a compris que c'était la lumière qui faisait qu'on voyait les choses. Et il a fait une première expérience, puisque vous me demandez quelques détails. Dans un verre, il avait mis une pièce qu'on ne voyait pas. Et quand on a mis de l'eau, sans changer de position, il voyait la pièce parce qu'il y avait une... voilà. Donc, je vous dis, moi, je ne suis pas physicien, mais c'était ça, sa première expérience.
Et jusqu'à l'an 1000... En physique, dans l'optique, ce qui était connu était la réflexion. Et la réfraction n'était pas connue. Donc c'est ce qui a inspiré Descartes, pour la loi de Descartes d'ailleurs, on dit l'indice de réfraction fois le sinus de l'angle d'incidence est égal à l'indice de réfraction fois l'angle de réfraction. Et cette loi de Descartes met en évidence la réfraction à travers un dioptre. C'est-à-dire qu'on regardait simplement un domaine et non pas le domaine qui est séparé par le dioptre. L'invention de l'an 1000 mettait en évidence ce qui se passait, ce qu'on pouvait voir de l'autre côté du dioptre. Et donc on échappait simplement à l'exclusivité de la réflexion et ça introduisait la notion de réfraction. Voilà. Mais ça n'a jamais été matérialisé avant Descartes.
Pour répondre à votre question, monsieur, quand on étudie les sciences physiques, moi je l'étudiais en Tunisie, quand on parlait de la réfraction, on disait la loi Ibn-Haytham Descartes avec un trait d'union. Sachant ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que de l'âge d'or, c'est-à-dire des Abbassides, on va dire, de l'époque de Charlemagne, c'est-à-dire ce qui correspond à Harun al-Rashid Charlemagne, on est autour du début du 9e siècle, jusqu'à la prise de Bagdad par les Mongols, et la destruction de la maison de la sagesse, la grande bibliothèque de Bagdad, Bayt al-Hikma en arabe, des manuscrits ont été diffusés partout, et que ces textes, ces auteurs, ont été étudiés, traduits et utilisés dans les universités européennes. On sait que, par exemple, en médecine, on continue à utiliser Averroès, Razès, etc. Razi, c'est Razès. Jusqu'aux Lumières, quasiment. Et il y a eu cette coupure. Alors après, il y a eu un déni, quelque part. Il y a eu l'endormissement, entre guillemets. Donc le monde arabo-musulman s'est endormi, s'est couché, et le réveil a été l'arrivée de Bonaparte. Hein, et c'était le grand choc. Et à partir de là, il y a cette explication. La deuxième explication, c'est que ces textes, c'est-à-dire que il y a une période d'ignorance et d'obscurité, je ne dirais pas d'obscurantisme, qui a touché le monde méditerranéen du Sud, et ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont tombées dans l'oubli, et qu'aujourd'hui, on a tendance à les retrouver.
Est-ce qu'il y a une autre réaction ? Moi, j'avais une question par rapport à Karim. J'aurais aimé que tu précises, parce qu'à un moment, tu as parlé de l'arrivée des Vandales et des Visigoths, et tu as parlé de l'arianisme. Et tu as employé le mot arien. Je pense que peut-être qu'il faut préciser ce qu'est l'arianisme pour ne pas créer d'ambiguïté par rapport à ça.
Si je n'ai pas été suffisamment clair, c'est l'arianisme avec un I, pas avec un Y. Hein. On ne parle pas donc des peuples d'origine indo-européenne liés à l'Iran et à l'Inde, mais on parle d'une... aujourd'hui, on dirait une secte chrétienne, mais j'aime pas le secte, d'une confession chrétienne qui était très importante au 2e, 3e siècle après Jésus-Christ et qui a disparu. Je suis en train de chercher le concile qui l'a condamné. Et donc, c'est Nicée. Donc, c'est Nicée. Et donc, ce rite religieux, en fait, a été donc écrasé, entre guillemets, par le rite catholique dominant. Voilà, celui qui a perduré jusqu'à aujourd'hui. Mais à l'époque, dans l'Antiquité, il y avait les différents cultes. Et ces deux-là, dans l'Antiquité, donc je parle de l'Ouest de l'Europe et de l'Afrique du Nord, je ne parle pas de ce qui se passait en Orient, c'est encore autre chose, mais étaient très forts. Voilà.
Tout à fait, c'est vrai. Et saint Augustin d'Hippone, rendant à César ce qui appartient à César, un père africain, Augustin.
Juste pour poursuivre ce que la réflexion d'Abdelrazak, c'est une chose qui est vraiment très énervante lorsqu'on est un petit intellectuel européen d'origine maghrébine et qu'on discute avec des amis maghrébins vivant au Maghreb. Alors les gens cultivés, évidemment, connaissent la chose, mais beaucoup d'Algériens, Marocains, Tunisiens ignorent le passé chrétien de l'Afrique du Nord. C'est vraiment... curieux parfois, c'est assez étonnant. Donc, je me rappelle une discussion assez absurde où essayer de démontrer que, voilà, j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes et les autres niaient quasiment la chose, quoi. Donc, c'était un peu décourageant. Je ne parle même pas de la dimension juive de l'Afrique du Nord, bien sûr. Donc, c'est voilà. Et je crois savoir que dans la salle, il y a des personnes qui sont attachées à la dimension ou l'identité berbère. Ça aussi, c'est une autre dimension qui pose problème encore aujourd'hui politiquement. Parfois, on sait très bien qu'il y a un certain nombre d'autorités locales qui ont tendance à nier ou à effacer cette chose-là. Or, elle est réelle. Et voilà, c'est un fait. C'est un fait historique, c'est un fait démographique encore aujourd'hui. sans sombrer dans une berbérité ou une berbérisme échevelé. C'est pas la question, hein. Simplement de constater que sociologiquement, historiquement, politiquement, ça a existé et ça existe, c'est tout. Oui. Les, dans le monde arabe, les minorités, je parle du monde arabe, je parle pas du monde musulman, les minorités ethniques, je pense aux berbères en Afrique du Nord ou aux Kurdes au Proche-Orient, ont souvent du mal à s'exprimer. Les Kurdes, c'est particulièrement frappant, puisque et les Arabes, et les Perses, et les Turcs sont contre eux. C'est un peu compliqué.
Bonsoir. Moi, je vais vous demander une question très basique. Qu'est-ce qui définit la culture arabe? Puisque ce n'est pas la langue, puisque ce n'est pas la religion. Enfin, la langue, elle est partagée par les Berbères, par exemple.
Non.
Non?
Ah non, non.
Ah d'accord, bah, alors je veux bien des définitions.
Moi, je suis marocain, quand un Berbère parle, je ne le comprends pas. Quand un Saoudien parle, je peux lui parler.
D'accord.
Enfin, j'arrive à comprendre un Saoudien, mais pas un Berbère.
Et donc, est-ce que c'est le seul élément de définition de la culture arabe, la langue, ou c'est... Non, il y a un historique. Est-ce que vous pouvez revenir dessus?
Moi, je dirais la langue tout de suite.
Oui, donc il y a une définition. Donc cette culture arabe... Alors, il faut comprendre que l'arabe s'est développé dans cette région du monde, là où il y a mon curseur de souris. Donc vous avez... L'arabe est une langue sémitique, de la même branche que l'hébreu, qui va se développer donc, en Terre Sainte, le territoire israélien et palestinien aujourd'hui. À côté, une autre langue, c'est le syriaque et l'araméen. Jésus parlait araméen. Et on a donc cet arabe-là, donc, qui va être véhiculé par la propagation de l'islam. Et donc, à un moment donné, donc, pendant, je veux dire, entre 632, c'est-à-dire la mort de Mahomet, jusqu'à 732, on va avoir quasiment la figuration du croissant. Alors, à ce moment-là, se crée un ensemble géopolitique. Pas unifié, mais unifié par la culture. C'était la culture dominante. C'était la langue arabe qui a pris pour modèle... Alors, on est passé d'une langue de l'orature, c'est-à-dire une langue des orateurs, mais qui parlait surtout, qui s'exprimait surtout à l'oral, vu que l'Empire s'est agrandi, a grossi, il a fallu fixer une langue, d'où la création de la grammaire, d'où la création du canon, je prends le mot grec, mais qui va passer en arabe, qui va dire la loi, kanoun, en arabe, et qui va amener à cela. Donc cet art de vivre, cet art de parler, cet art de réfléchir, qui va permettre de traduire, d'amplifier des textes de l'Antiquité, qu'elles soient du domaine asiatique, indo-persan, on va dire, surtout la partie byzantine. Damas a été la première capitale de l'Empire avec les Omayyades. La deuxième capitale, ça a été Bagdad. La troisième, ça a été Cordoue avec les influences. Et à ce moment-là, parler arabe, c'est comme aujourd'hui parler l'anglais. C'était la langue dominante. Alors aujourd'hui, où on en est par rapport à cet ensemble? Il y a un arabe, c'est l'arabe littéral, c'est l'arabe littéraire. Ce que disait tout à l'heure Nasser, j'arrive à comprendre un Saoudien, etc. Quand on regarde la télé, on comprend tous, qu'elle soit émise de la Somalie ou de n'importe quel pays. Si, tu as la télé. Ou la télé. Oui, mais tu. L'autre jour, j'ai capté, par exemple, le journal télé éthiopien, l'Érythrée. C'est en arabe, on comprend. Alors après, pour la communication quotidienne, il y a des parlers locaux, ce sont des langues vernaculaires, un peu comme le latin qui va donner place aux lingua romanae, à toutes les langues romanes, etc., avec des distinctions. Voilà. Ce qui fait que la culture arabe, c'est un socle linguistique. Je ne sais pas si j'ai été assez clair, précis.
Moi, j'ajouterais juste un petit mot. Pour moi, je vais être très court, un arabe, c'est quelqu'un qui parle de l'arabe. Un berbère n'est pas arabe. Il vit dans un pays arabe, il peut apprendre l'arabe et écrire en arabe. Il y a eu des savants berbères, mais il n'est pas arabe. Enfin, c'est ma façon de voir les choses. Et je pense que même pour les pays qu'on appelle pays arabes, c'est des pays où on parle arabe. Rien à voir avec la religion ni...
Je voudrais juste compléter la réponse d'Abdelazak. Je savais qu'il était attaché à la laïcité, mais à ce moment-là, je ne pensais pas, puisqu'il a réussi à faire un truc sur la langue arabe sans évoquer le Coran, ce qui me paraît fort intellectuellement. Évidemment, je suis entièrement d'accord avec ce qu'il a dit. Cette langue arabe, elle est évidemment liée au Coran. D'accord, il y a un texte qui est écrit en arabe, donc c'est quelque chose d'essentiel dans l'imaginaire de tous les Arabes. Ça, c'est le premier point. D'autre part, il y a 22 pays arabes, mais comme le disait Abdelazak, chacun a grosso modo son propre dialecte. Et pour qu'un Saoudien, un Marocain se comprenne, il faut impérativement qu'ils aient été scolarisés, qu'ils aient appris ce qu'on appelle l'arabe fosha, classique entre guillemets, l'arabe des médias, celui de la télévision, de l'université. Parce que sinon, si un paysan marocain rencontre un paysan irakien, s'ils n'ont pas été scolarisés tous les deux, ça ne va pas être évident d'arriver à communiquer. Il y a des dialectes qui sont relativement différents. Il y a un phénomène de diglossie. Chaque arabe parle son propre dialecte à la maison, apprend l'arabe entre guillemets classique, en fait, l'arabe des médias à l'école. Et s'il est cultivé, s'il étudie la théologie ou la littérature, il va apprendre l'arabe classique du Moyen-Âge, etc., etc. Donc il y a différents niveaux de linguistique en langue arabe. Mais c'est vrai que ce qui est évident, c'est que dans le monde arabe, il y a des minorités culturelles qui parlent d'autres langues, qui parlent le kurde, qui parlent le berbère. Et donc là, évidemment, ces gens-là, généralement, maîtrisent les deux langues. L'arabe devient langue de communication.
Oui, juste un mot par rapport à votre intervention. La confusion des berbères avec les arabes n'est pas une... Il a raison de citer que les berbères ne sont pas des arabes. Et en fait, vous ne faites pas une confusion qui est maladroite. Vous faites une confusion qui est inscrite dans l'histoire. Et les berbères, en l'occurrence, un regroupement de plusieurs ethnies, notamment les Kabyles, les Chleuhs et les Mozabites, qui se retrouvent un petit peu en Algérie, au sud de la Libye et en Tunisie tout particulièrement, c'est en fait la sédentarisation de ces composantes berbères en Afrique du Nord, qui fait qu'ils ont adopté la religion musulmane plusieurs années après, et par conséquent se sont identifiés à la langue arabe par leur pratique de l'islam. Et c'est à partir de là qu'on les identifie, parce que justement le moyen de communication commun par la suite était la langue arabe. Le dialecte d'ailleurs, pas la langue arabe, parce que tous les berbères qui sont musulmans, qui pratiquent, ne parlent pas la langue arabe, ils parlent le dialecte. Et il y en a plusieurs d'ailleurs, même le berbère. Il parle, oui, non, mais je parle de la pratique. Moi, je me rappelle de mon défunt grand-père en Algérie, quand il faisait sa prière, ça donnerait la chair de poule aux intervenants qui maîtrisent la langue arabe. En fait, quand il citait le Coran en arabe dans sa tête à lui, c'était incompréhensible en langue arabe. Mais en fait, l'adaptation, l'adhésion à l'islam, par la pratique quotidienne de la religion, faisait qu'on pouvait les identifier à des arabes. Et ça véhicule, d'ailleurs, ils véhiculent eux-mêmes cette identification, non pas par une démarche de fierté, mais une démarche d'adhésion et de pratique à la religion. Mais la fierté, elle se situe quand on évoque leurs origines, au niveau de la berbérité, par exemple.
D'un point de vue un peu plus économique, en fait, il y a quelque chose que je comprends pas. C'est ouais. Actuellement, on voit que le monde arabe est, d'un point de vue économique, je dis bien, moins avancé que l'Europe. Et ce que je comprends pas, c'est qu'on a vu que c'était un vivier intellectuel un vivier intellectuel et qui avait été extrêmement important au cours de l'histoire sur plein de domaines différents. Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'à l'heure actuelle, y a un retard, finalement, par rapport, en l'occurrence, à l'Europe, qui a réussi à prendre un ascendant, entre guillemets, économique, par rapport à l'Afrique du Nord, en tout cas. Et ça, je n'arrive pas bien à comprendre.
Bon, l'âge d'or arabe, c'était entre le 8e et le 13e siècle, à peu près. Depuis, on l'a expliqué tout à l'heure, ça allait moins bien. Toutes les civilisations connaissent quelque chose comme ce que connaissent les Arabes aujourd'hui. Et pour que ça soit compris, il suffit de prendre l'exemple de la Grèce. Économiquement, la Grèce aujourd'hui, en Europe, c'est le dernier des pays. Comment ça se fait que la Grèce, qui est à l'origine de la philosophie, de la civilisation européenne, même si on oublie les Arabes, les musulmans et tout ça, comment ça se fait que la Grèce aujourd'hui est moins bien lotie que des pays, je ne vais pas dire les Vikings, mais des pays d'Europe du Nord qui, à l'époque d'Aristote, Platon, etc., vivaient d'une façon quand même un petit peu moins civilisée, on va dire, aujourd'hui. Donc ce qui arrive aux Grecs, même s'ils sont quand même en Europe, ben, ça arrive aux Arabes, ça arrive la civilisation indienne, les Égyptiens, c'est pareil, on peut se poser la question, comment ça se fait, les Égyptiens, ils ont construit des pyramides, et aujourd'hui, l'Égypte fait partie des pays, on va dire, de tiers-monde, ou pays émergents. Et malheureusement, tous les pays connaissent des hauts et des bas, et il faut juger, comme on a dit tout à l'heure, sur 20 siècles ou 30 siècles, mais sur 2 ou 3 siècles, c'est sûr que c'est pareil. L'Empire ottoman était très important. Aujourd'hui, la Turquie, ce n'est pas le pays le plus fort. On a même parlé de l'homme malade de l'Europe. C'est des choses, malheureusement, qui arrivent au cours de l'histoire. Mais je répète, prenez l'exemple de la Grèce et vous comprenez pourquoi, entre ce qu'a été la Grèce avant et ce que la Grèce aujourd'hui. Je ne vois pas d'autres explications.
Si, tu peux avoir une autre explication, c'est que cet ensemble géopolitique a perdu son autonomie politique et économique. C'est-à-dire que c'était devenu des provinces, quand on prend par exemple l'Afrique du Nord, qui a été à l'origine donc de plusieurs dynasties qui ont gouverné et l'Afrique du Nord et le sud de l'Espagne, qui ont complètement disparu. On prend par exemple l'exemple de la Tunisie et le Maroc, qui étaient devenus des provinces ottomanes, vraiment les marges de l'Empire. Ils se sont endormis, il y a plusieurs facteurs. Il y a des facteurs intellectuels, c'est-à-dire que l'islam sclérosé, on est dans une culture scolastique, c'est-à-dire c'était les sommes, les sommes, les sommes, les sommes, et on a perdu le sens de l'analyse, le sens critique. Et si on renouait, je vais vous laisser la parole, monsieur, et si on renouait avec des auteurs comme Averroès, hein, qui dans un, je vous le conseille, jeune homme, c'est un petit traité qui s'intitule Le discours décisif, où il analyse le rapport entre la foi et la philosophie, et entre la foi et la raison plutôt. Et il dit, la raison sans la foi est mauvaise, et la foi et la religion sans la raison est mauvaise. L'une se doit d'éclairer l'autre. C'est ce que l'on retrouve chez un autre auteur, hein, ce qu'on retrouve chez les humanistes, que ce soit Rabelais, ce que l'on retrouve chez Montaigne, etc. Ces sciences sans conscience n'est que la ruine de l'âme, etc. Et les Arabes, ou plutôt ceux qui étaient dans cet empire, ou le reste, les restes de cet empire arabe, ben, voilà, il s'est perdu, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont fait qu'on a perdu cette vitalité. Et puis, d'autre côté, il y a eu cette renaissance européenne qui a réglé ses comptes avec la religion. Il y a eu ce mouvement de laïcisation progressif qu'a connu l'Europe et que n'a pas connu le monde arabo-musulman et qu'il ne connaît pas encore. Et qu'il continue à se débattre avec ces questions théologico-politico, etc., etc. Et donc, ça fait un frein, puisqu'il y a un frein à la raison, il y a un frein à l'analyse, à la recherche, etc. Je crois que, monsieur, vous avez une question. Non, prenez-le.
Vous avez répondu en grande partie au thème que je voulais aborder, qu'effectivement, il y a eu la priorité donnée à la scolastique par rapport aux sciences. Et je pense que là, le Coran et la religion ont une influence énorme à ce moment-là. Ce qui a failli arriver avec la chrétienté dans certains domaines aussi, hein, qui a été plus frein comme auteur à un moment donné.
Disons que la chrétienté a réussi à faire sa peau et à la Bible et au clergé, ce que n'a pas réussi la raison, c'est-à-dire tous ceux qui ont essayé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, hélas, des auteurs, des penseurs éclairés, c'est-à-dire qu'on parle parfois de l'islam, des lumières, Qui aujourd'hui étudie Avicenne? Qui étudie Averroès? Qui lit les Mille et une nuits? Et aujourd'hui, on voit, par exemple, hélas, c'est la dérive, j'allais dire, hanbalito, comment ça, wahhabite, qui fait qu'aujourd'hui, il y a. C'est le hanbalisme, ça, c'est le dernier rite sunnite qui apparaît au IXe siècle. On est autour de 833. Al-Ma'moun qui fait des Mu'tazilites. Les Mu'tazilites qui proposaient une lecture positiviste du Coran. Ils disaient, il y a le texte, la matrice, elle est restée au ciel, la matrice du livre, et c'est un verset du Coran. On parle en arabe, on dit Umul Kitab, ce qui veut dire la mère du livre. La matrice, elle est céleste, et le texte sur lequel on travaille est terrestre. À partir de là, on peut le traduire, À partir de là, le hanbalisme va dire non, c'est la parole sacrée de Dieu. S'il est dit noir, c'est blanc. Là. Donc il n'y a plus ni de lecture métaphorique, ni lecture symbolique. Et on ferme l'analyse. Et c'est cette branche-là qui va gagner. Il y a un très très beau film qui a illustré ça. Et c'est le film de Youssef Chahine qui s'appelle Le Destin, dans lequel il revient. Voilà. Et on retrouve ce débat théologique entre Averroès d'un côté et les autres. Et Averroès, c'est le Chahine du XXe siècle, en fin de compte, où le Averroès, c'est l'image des débats qu'on retrouve en Égypte aujourd'hui.
Je voudrais juste prolonger de la remarque de mon voisin Abdelrazak. Je suis partiellement d'accord avec ce qu'il a dit. Moi, je crois qu'il est trop pessimiste, mais ça n'engage que moi, bien sûr. Ça fait 25 ans que je m'intéresse au monde arabe et j'ai passé une dizaine d'années de ma vie dedans, surtout au Moyen-Orient. Et ce que je veux dire, c'est qu'après de très très longues discussions avec des amis arabes ou des amis musulmans qui n'étaient pas arabes, j'ai souvent l'impression que c'était le monde arabe qui était bloqué, c'est pas l'ensemble du monde musulman. J'ai pas souvent l'impression que les Turcs, les Perses, les Iraniens et d'autres, je pense à des Indonésiens par exemple, sont plus ouverts à l'interprétation, à l'ijtihad, l'interprétation des textes. Il y a 4-5 ans, il y a un auteur français qui s'appelle Rachid Benzine qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Les nouveaux penseurs de l'islam » qui montrait, je pense, à quelqu'un qui s'appelle Abdelkarim Soulouj, qui est un penseur philosophe iranien qui va régulièrement en tôle. Mais ce monsieur fait un effort d'interprétation qui est extrêmement intéressant. Et je pense que... Mais je n'engage que moi, là. En dépit du fait que je suis historien, je ne suis pas non plus ni lexicographe ni théologien. Je pense, mais je ne peux pas le démontrer, que les Arabes, du fait que le Coran est en langue arabe, ont un rapport au texte qui est radicalement différent des musulmans européens, des musulmans turcs ou des musulmans nigérians. Donc voilà, il me semble qu'il y a un lien, mais c'est à démontrer, hein, c'est une hypothèse, c'est tout, je n'ai pas de preuve.
Elle est démontrée. Il faut savoir que la sacralisation du Coran en tant que telle, elle remonte au Xe siècle. Et c'est au moment de la coupure entre les Perses, c'est-à-dire que le centre du pouvoir se déplace de Bagdad vers les marges de l'Empire et les califs abbassides ont tout perdu. Et à un moment donné, il y a un débat entre Arabes et Perses. Les Perses disaient, nous sommes les descendants de cette grande civilisation, c'est nous qui avons battu les Grecs, etc. etc. Et que rétorquaient les Arabes? Notre prophète a parlé arabe. Et donc, il y a eu ce blocage, on n'analyse plus. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est la charia. Le mot, je m'arrête sur ce terme-là, charia, parce que ce sont des mots que l'on entend. Charia en arabe, alors si on fait un peu d'étymologie arabe, parce que c'est intéressant l'histoire de la langue. Je vous ai dit tout à l'heure que l'arabe est une langue sémitique, comme l'araméen, syriaque, hébreu, etc. Et donc, elle repose sur ce qu'on appelle la racine trinitaire. C'est-à-dire que ce sont trois lettres, qui donne le verbe, et à partir de là, on va créer tous les mots, c'est-à-dire les adverbes, les verbes, etc. Exemple, shara'a en arabe, qui veut dire tracer, dresser. On va trouver, par exemple, shara' qui va donner le mot avenue ou boulevard. Shira', je reste toujours dans le même champ sémantique, shira', qui va donner le mot voile. Donc la charia, c'est une voie, c'est une manière d'interpréter. Et donc, puisque considère le texte coranique comme étant universel, il doit s'adapter à chaque époque et à chaque lieu. Sauf qu'à un moment donné, on a tout dit.
Il n'y a plus rien à dire, il n'y a plus rien à rajouter. Et on est loin de la kabbale juive, où il est du devoir de chaque kabbaliste de trouver un sens nouveau. Et c'est ce, cet enfermement. Je vous donne un exemple. On l'a suivi, hélas, dans les informations ces dernières années, où il y a eu cet intellectuel égyptien qui était professeur de littérature arabe, qui enseignait à l'université du Caire et qui faisait sa thèse de doctorat en linguistique. Et il a fait une étude philologique du Coran. Et il a trouvé une thèse, il a dit, qui était la suivante. Si Mahomet était au XXe siècle, il aurait accordé les mêmes droits aux hommes et aux femmes quant à l'héritage. Il a été déclaré apostat. Et comme il est apostat, il ne peut pas se marier avec une femme musulmane. Donc il a été divorcé de fait. Il y a eu une fatwa. C'est le deuxième terme sur lequel je voulais revenir. Une fatwa, c'est un avis juridique. C'est qu'une personne éclairée qui peut donner à un moment donné. Et ce n'est pas un anathème ou une mise à l'index. Et donc, il y a une fatwa qui rendait son sang licite, halal, c'est-à-dire le tuer halal, c'est-à-dire rendre licite. Et donc, on a tout provoqué. Ce qui fait qu'aujourd'hui, cette lecture... Alors, je suis d'accord avec Karim lorsqu'il... Oui, il est décédé, hein, ce monsieur, il est mort. Ouais. Et il a été obligé d'être exilé aux Pays-Bas. Et donc, il y a toute cette problématique aujourd'hui qui fait qu'il y a eu l'impossibilité de l'épanouissement. Dernier point, parce qu'on pourrait parler des heures et des heures. La plus grande université qui a formé les meilleurs arabisants, c'est quelle université ? Paris 4, c'est la Sorbonne. Alors peut-être qu'à l'époque, on ne parlait pas de la Sorbonne, mais quand on pense à Massignon, quand on pense à Corbin, Plunou, Berck, etc., toute cette génération d'orientalistes qui ont exhumé tous ces textes anciens. Massignon qui fait sa thèse sur El-Hallaj, qui est un mystique du 9e siècle, hein, qui a été crucifié à l'envers, hein, la tête en bas, etc. Donc il y a tout ce travail-là, et ce sont les Occidentaux qui ont un regard, les orientalistes, qu'ils soient français, et surtout, les meilleurs c'était les Allemands, c'était les meilleurs romanistes, mais aussi c'était les meilleurs orientalistes qui ont exhumé toute cette tradition. Aujourd'hui, hélas, cette tradition n'est pas connue. Donc, je partage le point de vue de Karim par rapport à ce blocage. Moi, j'ai parlé du blocage dans le monde arabe, je n'ai pas parlé du blocage dans le monde musulman. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la différence des rites musulmans, vous avez les quatre écoles sunnites, vous avez plusieurs écoles chiites, et le chiisme est plus éclairé, plus ouvert intellectuellement que ne l'est le sunnisme. Ça n'engage que moi.
Il y a une question. Oui.
D'un point de vue géopolitique et historique, quelles sont les relations du monde arabe avec la Palestine, la Turquie et l'Iran ? Et par rapport à la Palestine, j'ai vu que l'Israël avait, par rapport à vos documents, pour langue officielle, l'hébreu et l'arabe, justement. Donc, voilà. Donc la Palestine, l'Iran... Et le monde ottoman d'un point de vue historique, parce que voilà, et géopolitique. Enfin, votre interprétation.
Alors, merci pour la petitesse de la question. Alors, on va commencer par les grandes aires culturelles. Il y a une rivalité culturelle, politique et parfois religieuse entre les Arabes, les Perses et les Turcs. Les Turcs et les Arabes sont majoritairement sunnites. Les Perses sont majoritairement chiites et depuis le 7e siècle, il y a une forte rivalité entre l'Empire ottoman et l'Empire séfévide, puis ensuite l'Iran chiite d'aujourd'hui. Et cette rivalité est encore vraie aujourd'hui, c'est particulièrement frappant depuis 4-5 ans par exemple. Parmi les enjeux des guerres locales et des soulèvements arabes, il y a cette dimension chiite-sunnite qui est évoquée d'ailleurs dans la presse occidentale, mais auquel beaucoup de personnes pensent. Les gens qui, comme moi, aiment la Syrie et s'inquiètent du sort de la Syrie, s'inquiète beaucoup de ce qui pourra arriver si le dictateur tombe. On peut peut-être le souhaiter sur le plan moral ou politique, mais il faut bien envisager toutes les conséquences que ça va avoir. S'il tombe, il appartient à la minorité alaouite, qui est une sorte de secte chiite. S'il tombe, les sunnites vont probablement arriver au pouvoir. Les sunnites sont très énervés pour différentes raisons. Depuis 40 ans, il va y avoir des vengeances. On a vu en Irak ce que ça a donné. Actuellement, on a 37 000 morts sur à peu près un an et demi. Est-ce qu'on est prêt à avoir une sorte de Saint-Barthélemy pendant encore un an et demi ou deux ans ? Voilà, il faut juste voir que c'est pas blanc-noir, loin de là. Et d'autre part, il y a d'autres minorités qui vont trinquer. Les chrétiens risquent de trinquer. En Irak, la moitié des chrétiens a disparu en 8 ans de temps. Et ils sont partis au Canada, aux États-Unis ou en France. À Sarcelles, il y a 2 ou 3 ans, on a ouvert une magnifique église nestorienne. Donc voilà, ça a vraiment des conséquences. Je ne soutiens pas du tout le dictateur syrien actuellement en place. J'essaie juste de penser à ce qui va arriver aux plus faibles après. Voilà, je pose la question. Moi, j'ai pas la réponse, je ne suis pas homme politique. Voilà pour ce qui est des Turcs et des Perses. Et ensuite, c'est par rapport à la Palestine. Alors là, la question est tordue et je n'arrive pas à trouver une réponse précise. D'abord, la Palestine, dans l'imaginaire arabe, c'est récent. On s'en prend que beaucoup depuis 60 ans, mais je ne suis pas sûr qu'au 19e ou 18e siècle, on était obsédé par la Palestine. Il y a une dimension politique qui est liée à la question israélienne, bien sûr. Officiellement, les États arabes font tous leurs efforts depuis 60 ans pour aider les frères palestiniens. Et j'emploie des termes de la langue arabe classique. Dans la réalité, les Palestiniens, semble-t-il, manifestent régulièrement leur déception par rapport à l'inefficacité des gouvernements des États arabes. Ce qui ne veut pas dire que les populations arabes ne pleurent pas pour ça. Vous trouverez des milliers de Marocains, de Tunisiens, de Saoudiens et d'Irakiens pour descendre dans la rue, manifester pour soutenir leurs frères palestiniens. Je mets frères entre guillemets, c'est la rhétorique locale. Hein. Bien. Maintenant, l'efficacité, l'efficacité politique de ce lien ne me paraît pas évidente. Dans l'imaginaire, c'est très important. Concrètement, ça n'a pas réussi jusqu'à présent. Face à ça, il y a évidemment l'État d'Israël qui est très puissant, les États-Unis qui sont là, l'Europe qui n'est pas loin, etc. etc. Donc c'est compliqué comme problème. Mais en tout cas, dans l'imaginaire arabe, ça compte. Dans la réalité, des gouvernements, de l'action politique arabe depuis 60 ans, peut se poser des questions. Voilà.
Alors, je ne sais pas si vous voulez intervenir ou...
Vous avez...
pas mieux.
Je
ne
sais pas si ma question est pertinente, mais en fait, c'est par rapport à la langue. Et est-ce que vous trouvez qu'il y a une perte du sens de certains mots ou une popularisation de certains mots? Par exemple, je sais que le mot voilà, enfin, depuis tout petit, je l'entends pour tout. Et par exemple, je joue, je l'entends. Je mange, je l'entends. Je suis au lycée, je l'entends, mais j'essaie de demander. Des fois, j'ai demandé à des amis qu'est-ce que ça voulait dire, mais ils n'arrivent pas vraiment à me l'expliquer. Donc, et certains mots comme ça. Et je trouve que depuis quelques temps, il y a des mots, on les utilise, beaucoup les utilisent comme ça, sans savoir vraiment ce que ça veut dire. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y a une popularisation de certains mots ? Ou une perte du sens ?
C'est aussi un manque de vocabulaire, je pense. Quand on ne sait pas dire quelque chose, on dit ben voilà. Ça résume peut-être ça, mais avant, on disait quoi ? Je vais expliquer quoi ? On disait quoi ? Beaucoup. Quand j'avais l'âge. Votre âge, on disait beaucoup quoi. Je l'ai vu quoi. En fait, ça ne veut rien dire à la fin. Mais le voilà, c'est vrai qu'on l'utilise comme du coup. J'entends tout le temps du coup. Il y a par conséquent, c'est quand même plus joli, mais on dit du coup. Du coup, je vais répondre. Du coup, Et j'entends du coup comme vous entendez voilà du matin au soir. Mais pour moi, c'est un manque de vocabulaire, mais je ne suis pas spécialiste de la langue française.
Ce mot, il était intéressant. Le mot « wallah », il y a « chouf », il y a « kiffer », il y a tous ces mots-là qui ont été popularisés par le langage jeune. C'est de ça que vous voulez parler.
Pardon. Le mot « voilà » ou « wallah » ?
Wallah.
Wallah ?
Wallah.
Ah oui, c'est ça. J'ai mal entendu.
Oui, t'as mal entendu. Excusez-moi. Donc, le mot « wallah », en arabe, qui veut dire « Ô oh Dieu, que Dieu soit
je jure par Dieu.
Témoin. C'est ça.
Par exemple, ce mot-là, on fait un match de foot et je l'entends à Wallah.
Ah oui. Je te jure.
C'est-à-dire que vous prenez l'exemple en arabe, on dit est-ce que tu as fait tes devoirs ? L'enfant qui répond à sa mère, Wallah, maman, je l'ai fait. Ça veut dire je te jure, maman, je te l'ai fait. Sauf que ce mot aujourd'hui, est devenu, j'allais dire, célèbre, entre guillemets, parce que il est popularisé par la chanson. Vous avez la première chanson de Zebda, hein, « Wallah l'azim wallah »,« Wallah l'azim wallah »,« Je jure sur la tête de Sim », etc., etc. Et ces jeunes donc toulousains, donc, qu'est-ce qu'ils reprennent ? Ils reprennent des choses comme ça. Et donc, ça a été repris. Alors, est-ce qu'il est utilisé à tort et à travers ? Peut-être, il y a une popularisation. Je ne pense pas que ce soit un appauvrissement du vocabulaire, mais au contraire, c'est une interpénétration au niveau des langues. C'est comme l'arabe va être... Alors, il y a certains qui parlent d'emprunt, d'autres qui parlent de pollution. Moi, je dirais que c'est plutôt un emprunt, c'est un enrichissement.
Est-ce que vous l'avez entendu de la part de la bouche de gens qui n'étaient pas musulmans, de jeunes qui n'étaient pas... Est-ce que ça glisse? Parce que ce qui est frappant aussi, c'est de voir que c'est, parfois ça glisse. Moi, j'ai enseigné à la Courneuve et je constatais qu'il y avait des mots d'arabe populaire qui passaient de la part de gamins qui n'avaient aucun rapport avec la culture arabo-maghrébine, en théorie. À la maison, je veux dire, pardon.
Oui, je l'ai entendu partout. Mais en fait, ce qui m'a vraiment frappé, en fait, c'est que certains mots, enfin, ils n'arrivent pas à me donner d'explications. Enfin, ils ne s'entendent pas entre eux.
Alors c'est lié à une chose. Alors, les trois personnes qui sont autour de la table, c'est que nous avons fait des études. Moi, j'ai fait des études littéraires, donc j'ai fait surtout des études de lettres, hein, de français, je suis prof de français. Mais j'ai fait des études aussi d'arabe. Je suis bilingue français-arabe. Et que le fait de recourir et de se pencher sur l'origine de la langue, on comprend. Ces enfants qui sont nés en France, de père et de mère, ou de grand-père et de grand-mère, à un moment donné, on a perdu le sens linguistique. Et ce qui fait qu'on n'a gardé que des bribes. Et parfois, voilà, parce qu'on entend le papy ou la mamie dire ceci ou cela, et on le répète. Aujourd'hui, c'est aussi devenu le langage de la banlieue, une manière de ne pas se faire comprendre par la police, etc. Et puis, il y a des mots qui sont déformés et qui évoluent. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Alors, que certains ne connaissent pas, on le voit aussi par rapport aux gros mots. Alors, moi, je vois chez mes élèves, Nandine, etc. Alors, ils prononcent mal. Le mot Abdullah. Salam alaikum. Alors, j'ai un élève qui rentre à chaque fois en classe, il me dit salam alaikum. Je ne lui réponds pas. Salam alaikum, salam. Le jour où je l'ai mis à la porte... Et je dis, ben, tu diras bonjour comme tout le monde. Mais si tu veux qu'on parle arabe, ce sera une autre fois. Mais pour lui, c'était gentil, c'était sympa. Et ben, je dis, mais tu diras ça avec tes copains. Je ne suis pas là pour ça. Alors, il y a ce glissement, certes, mais c'est du sociologique. On le voit dans les films, on les voit dans les chansons. Karine, tu parlais tout à l'heure des Fodel, des Khaled, etc. Et on retrouve ces chansons bilingues aussi. Bonjour, je ne sais pas si vous connaissez cette chanson avec Rachida et une autre personne, un autre chanteur. Il y en a un qui chante en français, l'autre qui chante en arabe. Et on retrouve tous ces éléments. Et là, on retrouve cette idée d'apport, d'interpénétration entre les langues.
Et puis, je pense que les jeunes sont un petit peu perdus, ne connaissent pas la langue, l'origine des mots, parce qu'ils n'ont pas étudié l'arabe, tout simplement. Souvent, c'est pour ça que chacun... pense que le mot signifie quelque chose, mais comme derrière il n'y a pas les bases, c'est pour ça qu'ils ne s'entendent pas entre eux et ne donnent pas la bonne explication.
C'est une représentation des banlieues, surtout. Ce sont des jeunes de banlieue qui ont pu sortir des banlieues ces mots-là parce qu'ils sont véhiculés aujourd'hui par des personnalités, des chanteurs, des acteurs, comme Samy Nasseri. À la télévision qui est devenue célèbre, il y a plusieurs rappeurs aussi, et il y a aussi le slam qui aujourd'hui essaye de corriger un petit peu tout le, j'allais dire, toutes ces formes de représentation populaire des banlieues. La musique était un outil, le cinéma était un outil, l'école était un obstacle, mais le cinéma et la musique étaient deux outils qui permettaient à ces populations de réussir le sport. Et également, donc, aujourd'hui, ça sort des banlieues, voilà, etc. Ce sont des mots qu'on retrouve dans les films, qui sont vulgarisés de manière extraordinaire. La musique aussi vulgarise de manière extraordinaire, donc on les retrouve plus facilement. Mais ce que disent les intervenants, en ce qui concerne la notion de l'héritage du mot, ils ne peuvent pas l'expliquer parce que justement, ils ne font pas la langue arabe, ils ne pratiquent pas la langue arabe. Et puis, il y a aussi ce phénomène de communication avec les parents. Dans ce type de banlieue, quand on rentre dans les maisons, hélas, on rentre dans le pays d'origine. C'est-à-dire, dès que vous fermez la porte, vous rentrez par exemple dans une maison d'une famille maghrébine, dans les cités à Trappes, pour citer un exemple tout particulier. À Trappes, vous avez un marché le vendredi. Si vous ne savez pas parler l'arabe, vous ne pouvez pas faire les courses chez certains commerçants. Ou alors vous montrez du doigt, je veux ça, et puis vous dites 3 euros, 4 euros, et vous payez. Et ils ne parlent pas autre chose que la langue d'origine. Et quand vous rentrez dans ces familles, il y a un deuxième élément qui est triste à reconnaître, c'est l'obscurantisme que vivent les femmes dans les familles, qui fait que ces femmes-là n'ont pas accès à la culture, n'ont pas accès, j'allais dire, au tissu associatif pour évoluer, et par conséquent, elles ne peuvent pas apporter le différentiel. Donc quand vous rentrez dans ces maisons-là, il n'y a pas de compensation, il n'y a pas d'informations supplémentaires, culturelles, j'allais dire, qui peuvent les amener à l'origine des mots. Donc quand ils sortent dehors, c'est véhiculé dans le quartier et puis amplifié par le cinéma, la musique, etc. Donc vous allez trouver peut-être d'autres mots bientôt dans le jargon. Et plus on avance, plus ces générations vont s'imposer et plus le métissage va s'installer et plus ces mots-là vont devenir, et peut-être plus tard, on va les intégrer tout simplement dans le langage ordinaire.
Je voulais juste rebondir une minute sur la culture et sur les chansons au cinéma. Je me suis amusé, on avait discuté il y a 3 semaines ensemble, je me suis amusé à chercher un peu. Si vous prenez le cas du comique, simplement du comique, d'accord, depuis les années 70, et je confonds volontairement tous les gens qui viennent du Maghreb, qu'ils soient d'origine rapatriée, juive ou arabe. Je vais vous citer quelques noms chronologiquement, d'accord. Robert Castel, Smaïn, Michel Boujna, Patrick Timsit, Jamel Debbouze, Elie Semoun, Gad Elmaleh, Fellaini, Sophia Aram, Nawal. Tous ces gens-là, on les connaît, d'accord, depuis 40 ans, ils sont ce rire-là, d'accord, ce rire-là, dont ces gens qui ont une culture maghrébine et qui l'utilisent ou pas en scène, certains font des sketchs avec, d'autres pas, d'accord. Vous voyez l'importance de ce rire-là, d'accord, dans le comique français depuis une quarantaine d'années. Je ne parle pas du succès de la trilogie de la vérité si je mens, 15 millions d'entrées. 15 millions d'entrées, d'accord. C'est, voilà. Alors on sait très bien qu'il y a le fond culturel est maghrébin. Il est juif maghrébin, mais il est maghrébin, d'accord, avec une dimension arabe, musulmane évidente. On ne va pas rentrer dans les détails. Si je passe au cinéma cette fois, juste quelques noms comme ça, d'accord. Je m'étais amusé, il y a la vague des années 80-90. Je vous cite Sabine Ezema, Alexandre Arcadi, Roger Hanin, Gérard Darmon, Annie Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Nicole Garcia. La vague des années 90-2000, Roger Dizem, Samy Bouajila, Samy Nasseri, Kad Merad, Alain Chabat, Abdatif Keshish, j'ai oublié son nom, Afsia, pardon, Ersi, et Laïla Bekti, d'accord. Tous ces gens-là, soit sont nés au Maghreb, soit ont des parents qui viennent du Maghreb, d'accord. Et tous ces gens-là, on les voit un jour sur deux sur Canal+, TF1, France 2, etc. Donc c'était juste pour montrer l'interpénétration entre les deux cultures, la culture maghrébine, quelle que soit son origine, je répète, et la culture française d'aujourd'hui. C'est le lien est très, très, très étroit. Vous pouvez chercher avec les gens d'origine italienne, polonaise ou portugaise, je ne crois pas que vous arriverez à une telle énumération.
Est-ce qu'il y a une autre question, une dernière question ? Est-ce que là on aura peut-être le temps pour 2 questions. Alors,
question simplement. L'apport du Moyen-Orient en astrologie a été très important. Il est d'origine perse ou arabe ?
Alors, l'astronomie au début, donc c'était l'astronomie, oui. L'astronomie, oui. Ouais. Donc c'était l'étude des astres. Et c'était lié au développement des mathématiques et de la géométrie. Alors, bien sûr, les astronomes arabes n'étaient pas les inventeurs de la question. Ils s'étaient fondés sur d'autres travaux, mais ils les ont amplifiés. C'est-à-dire jusqu'à une date récente dans l'histoire des sciences, jusqu'à cette coupure étymologique. Cette coupure épistémologique du 19e siècle, la révolution industrielle, étudier l'astronomie, c'est s'appuyer sur les noirs. Et même, je crois que c'était les planètes, etc. On les connaissait avant leur nom gréco-romain. Aujourd'hui, on les connaissait sous le nom arabe. Voilà. Et donc, il y a ce travail, c'est-à-dire que ces apports étaient multiples. Nous n'avons évoqué que quelques éléments. On peut parler de la philosophie, on peut parler de la médecine, on peut parler de la géométrie, on peut parler de la littérature. Dans le domaine, par exemple, espagnol et occitan, on connaissait au Moyen-Âge des poèmes mixtes avec des strophes en langue romane et des strophes en langue arabe. On avait des genres poétiques, toute la poésie bachique, hein, l'éloge du vin. Vous avez toute la poésie courtoise. On dit que les troubadours, que tous ces trouvères étaient influencés par la poésie. Et ces influences, elles vont jusqu'à une date récente, quand on connaît que Aragon dans Le Fou d'Elsa était inspiré par le grand poète Mejnoun et Leïla, qui ont inspiré toute cette tradition. Voilà.
En tout cas, pour nous, c'est du moment où ils écrivent en arabe, ça fait partie de la culture arabe. Qu'ils soient perses, comme on a dit au début, c'est pas important. Perses, juifs, indiens, du moment où ils s'expriment en arabe, ça fait partie de la culture arabe. Et la civilisation arabe ne cherche pas à voir si la personne était, comme on dit aujourd'hui, arabe de souche. Ça n'existe pas, cette expression chez nous. En arabe, on accepte tous ceux qui parlent arabe et qui écrivent arabe, en arabe. Qu'ils soient perses ou pas, quelquefois, on ne sait même pas. On n'est pas sûr de l'origine et on ne cherche même pas cette origine-là. Ça n'a pas d'importance du moment où la personne s'exprime en arabe.
C'est un peu à l'image de ce que l'on a connu dans l'Antiquité avec l'Empire romain. Les auteurs latins, je prends un exemple, Apulée, l'auteur de l'Inde d'or, est libyen. On prend les docteurs de l'Église, voire les pères de l'Église, hein, comme Augustin, comme Cyprien, Tertullien et d'autres. On a tendance à oublier aussi qu'une dynastie maghrébine a régné sur l'Empire romain, la dynastie de Septime Sévère. Septime Sévère, c'est le Tismania, etc. Donc, pour le monde arabe, la culture arabe, ce n'était pas simplement ce que disait la sœur, hein, c'est plutôt un art de vivre, une manière d'écrire. C'était la langue de l'écriture, c'était la langue des sciences, c'était la langue du savoir-vivre et du savoir-être. À Cordoue, j'allais dire autour du Xe siècle, les femmes, qu'elles soient juives, chrétiennes ou musulmanes, sachant que les Arabes et les musulmans étaient minoritaires en Espagne. Ce qui était dominant, c'était la culture. Oui. L'Afrique du Nord n'est pas complètement islamisée parce que le christianisme a perduré, etc. Mais quand vous vous promenez aujourd'hui, moi, ma famille est originaire de Djerba, où là, il y a une grande communauté juive. Il n'y a pas de différence entre ces berbères judaïsés, ces berbères islamisés. Ils ont une langue commune, c'est l'arabe. Et c'est les mêmes choses que l'on se transmet, les mêmes racines, les mêmes cultures, etc.
J'ajouterai juste un petit mot. Je viens de penser à quelque chose. Est-ce qu'aujourd'hui, on va dire Tahar Ben Jelloun, est-ce que c'est un arabe? Non, Tahar Ben Jelloun est un écrivain qui écrit en français. Le fait qu'il soit arabe, ça n'a aucun intérêt. C'est en fait parce qu'il a écrit peut-être une ou deux fois les deux premiers livres, mais après, ou Amin Malouf, est-ce que c'est un Libanais, chrétien, musulman? Non, il écrit en français, il va être identifié par rapport au texte. Moi, c'est comme ça que je vois les choses.
Aujourd'hui, quand je finirai là-dessus, par rapport à la littérature, c'est quelque chose qui est universel et que parmi les plus beaux textes du XXe siècle, ce sont des auteurs algériens d'expression française, que ce soit le grand Kateb Yassine avec son roman Nejma, que ce soit Mouloud Faraoun, vous avez, et d'autres. Donc, Albert Camus. Alors, oui, mais Albert Camus, il était plutôt un métropolitain. Voilà. Non, mais je ne fais pas la distinction, mais je prends exprès. Oui, on s'en fout. Mais il y a toute cette dimension de la littérature maghrébine d'expression française qui est partie prenante et de cette culture arabe et de cette culture française. À un moment donné, ça n'a plus de sens de s'enfermer dans une pseudo-identité. Et pour terminer, je citerai Amin Malouf dans l'identité meurtrière, quand on lui posait la question « Qui êtes-vous, monsieur Malouf ?» Il disait « Il m'est impossible de répondre à cette question. Je suis arabe parce que c'est la langue qui me permet de rentrer en communion avec le 1 milliard et quelques de musulmans. De par ma mère, je suis catholique. De par mon père, je suis protestant. J'ai été francophone parce que c'est le côté de ma mère qui l'a emporté. Et j'ai été scolarisé chez les jésuites à l'université Saint-Joseph de Beyrouth. Si ça avait été le côté de mon père, j'aurais été à l'université américaine. » Et réduire Amin Malouf, il est à la fois, je veux dire, français, il est à la fois arabe, il est à la fois, je veux dire, musulman, chrétien, etc. Il y a cet universalisme qu'on retrouve dans la culture arabe et qui permet de voir tous ces va-et-vient de l'histoire. Qu'aujourd'hui, on a beaucoup parlé du monde arabe et de ses apports, mais on peut parler aussi des apports dans l'autre sens. Aujourd'hui, le parler maghrébin, je veux dire, c'est un sabir qui est un arabiche. Pour parler, c'est le terme. Aujourd'hui, on le voit dans sur Facebook, etc. Les jeunes aujourd'hui, et ce qui a permis aux jeunes Tunisiens, aux jeunes Égyptiens de contourner la vigilance des forces de sécurité, c'est qu'ils écrivent l'arabe en caractère latin. Leurs ancêtres doivent faire la girouette dans leur tombe s'ils voyaient cela.
Ces auteurs-là ont quand même conservé une certaine sensibilité orientale, quand même.
Oui, bien sûr, oui. Je suis content parce qu'on a commencé par la politique, on termine par la littérature et la langue, ça me paraît vraiment une bonne chose. Je voulais juste ajouter une chose. Donc, je suis marié avec une Polonaise et quand on est rentré de Pologne en France en 2002, il y a eu un concert de la grande chanteuse Fayrouz, la plus grande chanteuse du monde arabe depuis une trentaine d'années, à Paris. Et donc, j'ai cassé ma tirelire et j'ai été acheter deux places, une pour mon épouse, une pour moi. Moi, parce que je l'avais déjà vue, je pouvais la revoir. Et puis, je voulais que mon épouse comprenne ce que c'était que l'arabité. Parce que la polonité, je voyais ce que c'était Jean-Paul II, mais elle, l'arabité, elle ne voyait pas bien ce que c'était. Et donc, je voulais qu'elle voie que c'était autre chose que le couscous. Voilà. Donc, on a été appelé Yel, et elle a été sidérée, moi aussi d'ailleurs. La salle, généralement une salle, on va dire, avec des concerts classiques assez coincés. Et là, que ce soit les ambassadeurs arabes qui étaient au premier rang, les beurs comme moi qui étaient en dernier rang, ou les étudiants originaires de Tunisie, Maroc, Algérie qui hurlaient leur joie dans la salle, l'enthousiasme était absolument sidérant et mon épouse était vraiment frappée. Et donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est que les Arabes, c'est d'abord une langue et une culture, c'est évident, un imaginaire aussi commun du Maroc jusqu'à l'Irak. Et moi, quand je suis arrivé au Moyen-Orient, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que pour moi, en vivant en France, un Arabe, c'était quelqu'un qui avait une tête de maghrébin. Or, ce n'est pas vrai. Quand on va au Moyen-Orient, c'est complètement différent. Et le point commun entre un Syrien, qui a été longtemps colonisé par les Européens au XIe, XIIe siècle, et qui est blanc comme un Néerlandais, et un Soudanais, qui est d'origine négro-africaine, qui tous les deux se revendiquent arabes, il n'y a pas un peuple arabe. Il y a des peuples arabes avec une variante infinie. Et c'est une chose qui m'a beaucoup frappé. Et ils sont tous unis par une même langue, une même culture, un même imaginaire. Alors qu'il y a 22 pays arabes, mais il n'y a vraiment pas une seule nation arabe. Ça n'a, à mon avis, strictement aucun sens, à part d'un point de vue politique. Voilà.
Bien, merci à nos trois intervenants. Hein, et puis, merci à cette salle pour ces questions. Je pense qu'on ressort pas moins bête, parce qu'on n'était pas complètement nuls en rentrant. Mais... transformer, comme toujours, puisque c'est ça aussi nos identités, elles sont toujours mouvantes. Merci à tous et puis à une prochaine fois.